gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
À toutes et à tous, c'est 22h01 et c'est dimanche et nous sommes à... Ah, même 22h02, pardon. Et c'est La Causerie qui démarre sur Radio Canu au 102.2 avec ce soir autour de la table Jonathan.
Bonsoir.
Clara à la technique.
Bonsoir.
Jean-Yves.
Bonsoir.
Et un petit nouveau, Stan.
Bonsoir.
Voilà. Et moi, Fab.
Et oui.
C'est vrai.
On oublie toujours de dire que je suis là. Quand je fais. Voilà, je suis fixé. Je vais y aller. Voilà. Alors, rappelons juste que La Causerie, vous pouvez la joindre en tapant sur votre moteur de recherche préféré blog de La Causerie Canu, ou alors c'est à blogs.radiocanu.org/lacauserie. Ou alors, si tu veux nous envoyer un tout petit mail, ou même un très très long mail, tu peux le faire à lacauseriecanu@gmail.com. Tout est dit.
Ah ben, merci, bonne soirée, au revoir.
Au revoir.
Un plaisir.
Alors justement, comme c'est... Ah oui, on va saluer.
On me fait signe.
Il y a des gens qui
on
saluer.
Me fait signe à l'oreillette qu'on a oublié de saluer les absentes.
Oui,
ah
à
oui,
savoir,
c'est vrai. Pardon.
Emma et Nadège.
C'est ça.
Coucou.
Et on fait coucou. Des coucous, des bisous, tout ça. Tout
voilà.
Ça.
Coucou. Et un jour, elles seront plus absentes, on vous le promet. Non, mais où ? Alors, Stan... C'est ta première avec nous.
Exactement.
Oui, ça va très bien se passer.
Mais j'en doute pas.
Et t'as pris un sujet super cool pour commencer.
Ouais, mais.
Et...
C'est un truc qui me parle, donc normalement c'est fait exprès. Ça,
alors,
ça devrait marcher.
Alors ça va y aller. Donc tu vas nous parler de l'histoire de mail, de stockage, pas tout compris. Vas-y, fais-nous
ouais,
un bilan un peu.
Tu m'as donné un nom à cette chronique.
Ah donc, oui.
Tu vois, t'as été plus.
Écologique,
j'avais écologique, voilà. Et sur tout ce qui est la question du stockage des emails et la consommation, le coût du stockage des emails. Parce que. Donc là, je démarre, en fait. On est parti, hein, c'est
ah
ça
bah,
je
pas...
Oui, oui, non, mais il faut que je me mette en place.
Chez toi.
Voilà, non, mais maintenant, je vais parler de ce qui va se passer.
Ouf, ça va bien se passer.
J'adore mettre des pantoufles. Ah, donc.
Allez.
Mais si, je travaille avec des pantoufles,
ouais,
en plus.
Non,
donc, déjà, c'est vraiment, c'est
no
important pour moi.
Je...
Donc, ça a démarré, je suis sur Facebook et je tombe sur une pétition qui dit, voilà, il faut supprimer vos mails, vos anciens mails, ça a un coût énergétique super important. Et je vois ça et je me dis, bon, c'est forcément vrai, ça a forcément un coût énergétique, après de là à dire super important, j'en sais rien. Je suis assez méfiant de ce genre de pétitions qui sont un petit peu données à la volée comme ça, surtout sur Facebook où je me suis dit, bon.
Il y a des pétitions pour sauver l'accent circonflexe. Quand même.
Voilà, il y a de tout sur ce en ce moment. Donc non, mais donc voilà. Donc je me suis dit, bon, on va un petit peu se renseigner, on va un petit peu creuser le sujet. Et ça m'a rappelé une circulaire que j'avais vue il y a très longtemps sur l'ADEME. Alors à la préparation, j'étais très fier en me disant, personne ne connaît l'ADEME, et donc tout le monde connaît l'ADEME, semblerait. Tu peux nous redonner
Alors. Ah mince, j'ai perdu.
L'agence de développement.
C'est l'agence de...
Des énergies. Maîtrise des énergies, ouais, un truc comme ça.
Voilà, donc c'est un établissement public qui est rattaché à l'éducation nationale et l'éducation...
À l'État en général.
À l'État, ouais. Mais voilà, ministre de l'énergie, etc. Et donc c'est quelque chose qui est, enfin c'est un établissement qui est là pour accompagner les, tout ce qui est justement tout ce qui est les énergies durables et tout ce qui est les bonnes pratiques, etc. Et ils avaient fait une circulaire sur ces bonnes pratiques de notre usage d'Internet. Usage de l'informatique au sens large même. Et donc il y avait une grande liste de plein de choses, et dont par exemple il y avait éteindre votre modem le soir. Chose qu'on ne fait pas, enfin personne ne le fait ici.
Surtout qu'on te conseille de ne pas le faire.
Enfin, on nous conseillait avant de ne pas le faire, et maintenant ça n'a plus de problème.
Ah ok.
Maintenant il n'y a plus de problématique. Mais tu es dans le même cas que moi, j'ai peur que ma connexion ne revienne pas le lendemain matin.
Bah oui.
Moi aussi. Et après devoir faire une alerte enlèvement.
Exactement.
Quoi ?
Mais retrouver ma connexion, s'il vous plaît.
Pardon. Non, allez, on reprend.
Et donc, normalement il faudrait éteindre son modem le soir, parce que ça a un coût, ça reste quand même, etc. Et, dans l'idée, ça me faisait rire sur le moment, parce que ça m'avait rappelé un spot publicitaire, enfin pas un spot publicitaire, juste une. Un petit spot avec Fabrice Luchini quand j'étais petit, qui disait éteignez votre télévision, mais éteignez vraiment qu'il n'y ait plus la veilleuse ni rien, parce que toutes ces veilleuses allumées, ça tue des bébés pandas. Donc voilà, mais bon, je ne le fais pas quand même, il faudrait s'y mettre à éteindre ce modem le soir.
Sauf si tu détestes les bébés pandas, tu allumes tout chez toi.
Je sais que tu as une haine contre les bébés pandas.
J'aime pas ces bêtes.
Bref.
Alors si t'aimes pas sauver les bébés pandas, on fait ça pour les bébés phoques.
Voilà, les bébés phoques, on va en parler plus tard, les bébés phoques. Donc dans cette circulaire, il y avait aussi la consommation d'une recherche sur Internet, donc sur un moteur de recherche, sur Google au sens large, enfin... De manière générale, vu que 95% du trafic des moteurs de recherche en France, c'est via Google. Et donc ça préconisait, enfin ça indiquait, voilà, une recherche sur Internet, ça a un coût énergétique. On va faire une demande à des serveurs qui vont devoir traiter l'information, qui vont devoir ressortir une information pour nous la donner, suivant leur algorithme. Voilà. Donc c'est important, il faut continuer à le faire, il faut rester curieux, il faut rechercher, allez-y. Par contre... Voilà, quand vous êtes arrivé sur le site de Radio Canu, vu que c'est celui que vous allez chercher aujourd'hui, faut le mettre en favori. C'est très très important en fait, parce que dès que vous le mettez en favori, vous faites plus cette démarche-là d'aller chercher sur les moteurs de recherche et de faire travailler tout ça. Il est en favori, il est déjà sur votre PC, et donc tout est bon, vous gagnez ça. J'avais une magnifique image pour...
Oh oui, vas-y, parle-nous des...
Je sais que tu l'adorais celle-là. c'est comme si voilà, vous êtes chez vous et vous avez envie de pommes, et vous avez un ami qui a plein de pommes. Et donc vous l'appelez et vous lui dites j'ai envie de pommes, et il dit ça tombe super bien, j'ai 2 kilos de pommes chez moi, ils seront pour toi, c'est voilà, viens les chercher. Donc vous sortez de chez vous, vous allez prendre votre voiture, vous dépensez de l'essence pour aller jusqu'à chez lui, vous prenez une pomme, vous la ramenez chez vous et vous la mangez. Et le lendemain vous avez envie d'une pomme. Et vous retournez prendre votre voiture et vous retournez chez votre ami rechercher une pomme. Alors vous auriez pu emmener le sac de pommes directement chez vous. C'est un peu la même idée avec mettre en favori ou pas. Un site sur lequel vous allez aller régulièrement, vous savez que vous allez aller régulièrement, mettez-le en favori. Voilà.
Parce que les favoris sont sauvegardés en local.
Voilà, c'est le navigateur qui a sauvegardé ça, et ça ne demande pas un serveur externe pour fonctionner, c'est juste votre PC. Donc, petit gain énergétique, mais c'est plein de petits gains énergétiques posés bout à bout qui font quelque chose. Donc on continue dans cette c'est à la base, donc je parlais d'une circulaire de l'ADEME, et dans cette circulaire il y avait une autre information qui parlait justement de ces mails, le coût d'un envoi d'un mail qui existe, mais là on va pas en parler parce qu'en plus ça demanderait de parler du coût d'un envoi d'une lettre, etc. Donc c'est un peu compliqué, mais donc il y avait tous ces coûts là, il y a le coût aussi du stockage, mais vu que c'était une circulaire ça en parlait pas plus, mais ça indiquait clairement oui, il y a vraiment un coût, il faut faire attention, etc. Donc j'ai continué un petit peu à creuser, je suis allé voir un petit peu toutes les vraies études, les vraies recherches qui ont été faites sur le sujet. Je vous en ai pris une que j'aime bien, qui m'a fait un petit peu rire, et puis qui s'accorde avec à peu près toutes les autres. C'est une étude qui a été demandée par Orange. Donc Orange, ils ont fournisseurs internet qui ont une très grosse messagerie, donc l'idée un petit peu là pour eux c'était de voir combien ça leur coûtait, et ils ont demandé ça à Carbon 4, qui est un cabinet d'études, on s'en fout un petit peu. Donc pourquoi cette étude, pourquoi est-ce que Orange a demandé cette étude à ce moment-là? C'est que c'était il y a 6 mois, c'était pour la COP21, ils sont partenaires de la COP21, ils avaient besoin de montrer qu'ils faisaient les choses bien, ils avaient besoin de faire des petits coups de pub et montrer qu'ils étaient un petit peu dans le mouvement, donc ils ont demandé cette étude.
En fait, par principe, quand tu dis que tu veux faire quelque chose, tu fais une étude, parce que ça t'engage à rien.
Exactement.
T'as fait une étude.
Voilà, non mais tu montes pas de blanche, pas de verte dans le coup, vu que c'est un peu comme 21, mais voilà, c'était pour montrer, ils voulaient faire quelque chose. Les résultats de l'étude sont assez, assez significatifs. Si tous les Français supprimaient 50 vieux emails inutiles, c'est comme si on éteignait 310 000 ampoules pendant un an. Ou c'est comme si on privait l'éclairage public de Paris pendant un an et demi.
Mais alors comment c'est possible que stocker des mails soit finalement aussi...
Et
un impact voilà, aussi
c'est
important.
C'est tout le fonctionnement justement qui demande ça. C'est quand on envoie un mail, on ne se rend pas compte, on n'envoie pas qu'un mail, on n'envoie pas... Enfin, ce n'est pas un mail unique. Quand vous recevez un mail... Il est accessible sur votre boîte mail, mais il est accessible parce qu'il est sur un data center. Je viendrai juste après expliquer data center, mais il est sur un data center pour que vous puissiez y avoir accès de n'importe où, du boulot, chez vous, chez vos parents, etc. Mais si ce data center il tombe en rade, eh ben, ils ont prévu le coup, ils en ont fait une copie sur un autre data center. Ils en ont mis un deuxième en France. Et puis si le deuxième en France, enfin s'il y a un problème en France, ils ont quand même fait une copie en Allemagne. Pour être sûr. Et si sur le continent il y a un problème, Google en a mis une petite sauvegarde en Irlande, parce qu'ils aiment bien l'Irlande. Et si jamais il y a un problème sur toute l'Europe, il y a une petite sauvegarde en Californie. Comme ça on est sûr. Donc le mail que vous recevez, déjà c'est 5 mails. Quand vous envoyez un mail, c'est pareil, il reste dans la boîte d'envoi. Donc il est exactement pareil. Votre mail, quand vous l'avez envoyé, en fait il est sauvegardé 5 fois. Et si vous l'avez envoyé sur un autre hébergeur de mail, enfin Hotmail par exemple, ils sont pas sur les mêmes data centers. Donc c'est 5 nouveaux data centers. Donc c'est votre mail qui est pour vous et qui est dans le, enfin qui paraît être unique. Finalement c'est 10 mails. Et si dans ce mail là il y avait une photo de vos vacances que vous avez pas compressée parce que vous avez pas que ça à faire, qui fait 1 méga, bah déjà c'est 10 mégas. Et faut imaginer tous les mails, la quantité que ça demande. Et donc on en arrive à des extrêmes qui sont flagrants. Au niveau des data centers, j'étais un petit peu allé chercher. Google communique pas vraiment dessus. Ils en ont une quarantaine. Un data center, c'est en gros chez Google 2 millions de serveurs. Là, on commence à avoir. Enfin, un data center, c'est énorme, c'est quelque chose de monstrueux, c'est très très grand, c'est plein de PC qui tournent en boucle, qui chauffent, et qui ont un coût énergétique qui est très très.
Oui, en fait, c'est comme s'il y avait des tonnes de disques durs les uns avec les autres.
De toute façon, c'est exactement ça.
Branchés,
voilà. Un data center, c'est exactement ça. C'est des tonnes de disques durs où il y a votre mail, et il est ici, il est là-bas, etc. Et donc, il faut qu'il tourne tout le temps, parce que vous. Enfin, moi, personnellement, qui pourtant suis un grand geek, j'ai jamais eu de problème pour aller voir mes mails. Donc, c'est vraiment que ça tourne tout le temps, sans interruption. Là, je fais une pause parce qu'en fait, je suis sur mon PC. Ouais, moi, je suis le seul qui est. Voilà.
Tu t'es perdu en fait.
Voilà, non, PC, je suis pas perdu, je suis bien.
Ouais,
je suis...
Juste rappeler, point que tu trouves.
Je suis bon là.
Juste rappeler quand même que Internet, globalement, si on le transforme en pays, c'est le 6e pays émetteur de CO2. Voilà, en termes de. Voilà. C'est-à-dire que si c'est dans le classement, si ça fait Chine, Inde, États-Unis, Royaume-Uni, non, pas Royaume-Uni, France, Allemagne et Internet. Voilà, okay. Si vous le transformez Internet en pays.
Et c'était même, il y avait l'histoire, c'est que même juste Facebook représente un petit pays. Et Facebook, quelque part, ça paraît très important, mais c'est pas dans les très grands sites au final.
Oui, c'est ça, c'est peanuts. Enfin, Facebook, c'est un phénomène, mais il y en a plein d'autres, quoi.
Enfin, j'avais regardé le classement justement sur les data centers. C'est Google, Microsoft, Amazon, etc. Facebook, il apparaît très très loin dans la liste finalement. Et si on prend les sites pornographiques au passage, qui représentent énormément sur Internet, ça demande aussi des bandes passantes. Qui sont extrêmes, donc c'est pas étonnant au final que ça en arrive à un sixième au classement.
C'est énorme.
C'est énorme. Moi, quand je faisais cette étude, j'ai regardé un petit peu mes mails justement en me disant hey, mais combien j'ai de vieux mails vu que ça coûte vachement de stocker ces mails. C'est un coût super important, donc je suis allé voir et j'ai deux boîtes mails. Et je m'étais dit oh, j'en ai 3000 ici, j'en ai 3000 là, c'est bien. Non, j'étais presque fier de moi, je pensais en avoir beaucoup plus. Non, vraiment, tu vois, parce que t'as la boîte mail première où t'as tous tes amis qui t'écrivent, etc. Et la boîte mail où, ben voilà, ce que j'appelle la boîte mail poubelle.
Ah ouais, mais ça, c'est parce que t'as des amis.
Et oui, c'est la différence.
Moi, j'en ai pas. Allez, pardon, j'arrête de.
Et donc, non, ouais, j'ai sur mes deux boîtes mail et je pensais en avoir que 3000, les 3000, mais en fait, je me suis rendu compte que c'est des conversations. Donc en plus, dedans, tu vois, t'as des échanges.
Ouais,
donc
oui.
Voilà, je suis à 10 000. Je suis à 10, 15 000 mails, en fait, que je stocke depuis des années. Et j'ai toujours un mail de Jean-Paul qui m'a dit il y a 6 ans que sa pomme, elle était super bonne. Donc voilà, donc juste je refais un rappel parce que j'avais envie de faire deux fois la chose. C'est 310 000 ampoules qui seraient éteintes pendant un an si tous les Français supprimaient 50 vieux emails.
Ouais. 50.
50.
Alors si t'en enlèves 3000, ça va.
Et voilà, déjà je participe pour plein de gens à la fois, tu vois. Et donc c'est des résultats qui sont inquiétants parce qu'en fait ça vraiment c'est un coût énorme, c'est un coût très très important sur les choses dont on n'a pas notion et c'est pas évident. À ce moment-là, Orange s'est rendu compte qu'il y avait un peu une problématique pour eux d'un point de vue parce que ça leur coûte de l'argent. C'est la facture, elle est pour Orange au final hein, quand même, ouais. Pas pour nous, mais donc ça leur coûte de l'argent. Donc ils sont en train de réfléchir un petit peu sur des protocoles de messagerie éphémère. Ils sont un petit peu en discussion avec Microsoft, etc. Mais pour que ça marche, il faudrait que tout le monde ait ce protocole. Toutes les messageries utilisent le même protocole. Donc c'est pas prêt d'arriver. On verra bien. Donc la seule chose qu'on peut faire pour l'instant, c'est de supprimer ces vieux mails pour sauver des bébés phoques.
Attends, t'avais quand même une anecdote intéressante. Combien il faudrait supprimer de mails pour avoir l'équivalent en fait de l'extinction des lumières de Paris pendant un an?
Non mais c'est ça, c'est 50 vieux mails. C'est tout le monde supprime 50 vieux mails.
300 000 ans.
Oui mais c'est l'équivalent, c'est, sinon c'est un an et demi de déclaration.
Excusez-moi chers auditeurs, je n'écoute pas.
Non mais par contre, ce qui m'interpelle, c'est que ça montre la dématérialisation, c'est-à-dire que quand tu dématérialises, les gens ont l'impression que ça ne coûte rien, que ça n'a pas
de valeur. Oui,
mais c'est valable pour plein de trucs. Hein. C'est comme la musique en ligne. On dit oui, il vaut mieux avoir la musique en ligne qu'avoir des CD chez soi. Sauf qu'en fait, en réalité, on se rend compte que c'est pareil. La musique en ligne, elle est stockée sur des data centers énormes et elle est démultipliée aussi. Il faut toujours que ça marche et que tu as le même souci qui va se créer. Et là où je voulais en arriver, c'est que c'est valable aussi sur les boîtes dites, comment on dit, rebelles.
Ouais.
Chercher un terme, voilà, parce que c'est pareil, je veux dire, c'est le même principe, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes sur Rise Up ou je ne sais quoi, ou Nolog ou n'importe quoi, que le serveur qui est derrière, il tourne pas, si vous stockez 4000 mails, vous avez 4000 mails, quoi.
Ouais. Ouais. Et en fait, on se retrouve avec la même problématique qu'ont les grandes entreprises de l'agroalimentaire ou tout ça, c'est que c'est le stockage, c'est ce qui coûte le plus cher au final. Et c'est quelque chose dont l'utilisateur, le consommateur, n'a pas forcément notion. Le stockage, ça demande une place énorme, et au final, quand on dit justement... Donc ça consomme, c'est vu qu'on était dans cette idée un petit peu, et c'est l'actualité donne un petit peu ça. Consommer, ça veut dire rejeter du carbone, enfin du on rejette quoi déjà?
Du CO2.
CO2, voilà. Ça en rejette CO2, c'est vraiment important et c'est non négligeable.
Donc il faut faire comme pour la bouffe, envoyer vos mails en local. Alors merde, ça marche pas.
Oui, donc ah oui, mais c'est
envoyez vos amis autour d'une bière plutôt que d'envoyer un mail.
Une des solutions par contre pour garder ces vieux mails, ça reste sauvegarder-les sur votre PC.
Oui,
ça, voilà. Vous les enlevez du serveur, vous les sauvegardez chez vous, et puis quand vous avez envie de voir, donc toujours.
Surtout qu'honnêtement, on le fait jamais, quoi.
Et jamais.
Mais non, mais en plus, là aussi, mais ça amène à nous interroger sur notre propre rapport à tout ce truc-là, en fait. À toute cette virtualité qui, finalement, on y attache quand même un truc.
Mais totalement.
Alors que, déjà, on n'échangerait jamais autant de lettres avec tous nos amis, hein. Faut quand même être conscient, c'est je crois clair. Pas. Et, des
c'est
fois.
Pas pour... la, c'est pas le même usage.
Oui, oui,
c'est
mais.
L'instantanéité.
Oui, mais justement, voilà. C'est ça aussi le truc, c'est qu'on ne voit pas ce que ça entraîne derrière, en fait.
Mais c'est même
si tu t'envoies un petit message en disant coucou, ok, super, à ce soir, au fond.
T'as envoyé 10 fois coucou, ok, à ce soir.
Mais ouais, enfin.
Exactement, mais c'est exactement ça.
Et c'est quand même, justement, cette dématérialisation, tout ça, je trouve que c'est intéressant parce que.
Du coup, fais des mails plus longs, quoi.
Ouais, non, c'est ça. Surtout pas. Ah, j'avais lu justement un truc juste avant d'arriver ici. Il y avait une autre explication qui donnait que si dans une boîte de 100 personnes diminuait de 10% le nombre de mails de 10 mégas, donc les gros mails, enfin faire un petit peu attention à tous les gros fichiers, diminuer de 10%, c'était sur une année, c'était l'équivalent de 8 allers-retours Paris-New York.
Ah, c'est pas rien quoi.
Sur une boîte de 100 personnes. Ouais, c'est une moyenne après. Ouais. Enfin, c'est toujours. Donc c'est prendre avec des pincettes, mais l'idée est là. Quoi.
Par contre, en termes de chiffres, il y a des choses qui sont assez vertigineuses. C'est qu'il y a une boîte qui avait fait. Qui est Pfizer, qui est une grosse boîte de pharma, qui avait fait une étude sur ces mails, parce que justement, en plus pour les raisons de confidentialité, parce que plein de choses s'échangeaient et que. Voilà, il y avait. Comment on surveille tout ça. Et ils étaient arrivés à 5 millions de mails par jour échangés dans leur entreprise. Dans le monde. C'est énorme.
Mais alors justement, j'ai une question qui va pas... Mais on a une idée du nombre de mails échangés par jour à travers le globe?
Sûrement, mais j'en ai aucune idée.
D'accord.
Promis, je te donne l'information dès que je l'ai.
Non, mais ça doit chiffrer en milliards.
Ah, ça, ah bah c'est certain,
ça doit être énorme.
Déjà, ne serait-ce que par le nombre de spams que tu reçois, parce que c'est un mail.
Oui, c'est vrai.
Le nombre de
oui.
choses que ah, tu oui, reçois oui. en automatique, tu fais le calcul. Si t'en as 5 toi tous les jours, bah, chaque personne connectée sur Internet en a potentiellement 1, 2 ou 3 par jour. Et on est 4 milliards de connectés. Donc ça va très très vite.
Et là, tu prends que les mails. Tu gardes pas tout ce qui est conversation sur Facebook, conversation sur tous les outils comme ça, qui sont exactement stockés pareil, qui sont stockés partout. Ouais. Donc ça devient.
Et ça interroge sur la vie privée parce que tout ça, c'est stocké par du privé dans des data centers privés et on ne sait pas vraiment ce qui est.
Et qui en plus sont multipliés, quoi. C'est-à-dire que c'est pas juste un exemplaire de ce que tu as écrit, quoi. Il y a...
Sans tomber dans la parano, ça interroge quand même sur la notion de privé.
Sans tomber dans la parano Tu m'excuses Enfin bon, pardon. Et ben, c'était fort intéressant, dites-moi.
Merci, voilà, voilà. Stan.
Merci.
Est-ce qu'on s'écouterait pas un peu de musique?
Mais carrément, on fait ça.
Ouais.
À croire que la vie pourrait être une fête. Toujours. Et vous êtes toujours sur Radio Canu. Alors Stan, qu'est-ce qu'on vient d'écouter?
On vient d'écouter Babylon Circus, le titre Pauvre Fou.
C'était bien,
ouais.
J'adore.
Et toi là, Fab, donc tu as prévu de nous parler de quelque chose? D'une drogue?
Ouais, du cannabis qui fait perdre vocabulaire. Voilà. Non mais c'est important de parler de choses hyper importantes parce que quand même il y a des journaux de très grande qualité en France qui font des grands articles de fond. En l'occurrence 20 minutes et Métro. Tu peux la faire.
Oui, donc 20 minutes, c'est pas parce que tu mets 20 minutes à le lire, c'est parce qu'ils mettent 20 minutes à l'écrire.
Voilà. C'est exactement ça. Donc voilà, ces deux journaux gratuits ont sauté sur une information qui leur paraissait super importante, c'était de dire qu'une étude prouvait que les fumeurs de cannabis perdaient du vocabulaire. Alors c'était vraiment le titre, hein, le cannabis fait perdre du vocabulaire. Et là, je me suis dit, alors c'est un peu étrange comme titre, parce que j'ai d'ailleurs, je vais le dire tout de suite, j'ai rarement vu l'alcool fait perdre du vocabulaire, vous voyez, par exemple, ou prosaïquement, je sais pas, être con empêche de lire, enfin vous voyez, non, jamais j'ai lu des trucs comme ça. Mais par contre, le cannabis fait perdre du vocabulaire, ça c'était en une. Alors j'ai un peu fouillé, j'ai lu l'article. Alors l'article, très clairement, il fait cinq petits paragraphes. Alors dans le premier paragraphe, on vous explique que c'est un article qui va porter sur une étude de 380 pages qui est super importante, avant de vous dire qu'en fait, on ne va pas vous parler de cette étude-là. C'est assez drôle, parce qu'en fait, il y a deux études qui ont été faites. Alors une première qui vient de Lausanne, de l'Université de Lausanne, qui elle, effectivement, est une étude qui a été faite sur plusieurs années, sur environ... Alors, c'est bizarre parce que selon les articles, il n'y a pas les mêmes chiffres, entre 1000 et 3000 personnes qui ont été suivies pendant un certain nombre d'années. Alors, on leur a fait apprendre 15 mots de vocabulaire, puis on est revenu quelques années après, puis chaque année, on leur demandait, alors, c'était quoi les 15 mots? Et puis, ils retenaient les mots, et puis ceux qui disaient « j'ai fumé du cannabis », hop, ils se sont rendus compte, ils perdaient un mot de plus que les autres. Donc le cannabis fait perdre du vocabulaire. Vous voyez, cette étude est très très sérieuse, comme on peut le voir tout de suite. Alors, ce qui moi m'a fait rire, c'est que l'autre étude qui était citée dans l'article, en fait, est beaucoup plus intéressante. C'est une étude américaine qui a été menée par l'équivalent, enfin, par la FDA aux États-Unis, la Food and Drug Administration, qui a été demandée par donc c'est ceux qui régulent les médicaments, les drogues, hein, comme les médicaments drugs en américain. Et par rapport à la légalisation du cannabis aux États-Unis, parce que vous savez qu'il y a maintenant 6 États où vous pouvez fumer légalement du cannabis, et même un État où vous pouvez même le fumer pour des raisons récréatives. Donc, ils ont demandé une étude un petit peu comme ça pour voir si ça aurait un impact ou pas sur, sur la vie des gens, ce qui n'est pas anormal. Alors, je vous rappelle que la FDA fait la même demande pour l'alcool, les mêmes demandes pour toutes les drogues. Et donc, l'étude en question, l'étude de 380 pages, elle portait en réalité sur cette étude américaine qui n'arrive pas du tout aux mêmes conclusions que l'étude de Lausanne. Alors, a priori, c'est pour une raison très simple. D'abord, c'est que dans l'étude lausannoise, je crois qu'on dit comme ça... Lausannoise, enfin les gens de Lausanne, quoi.
Donc, facile.
Suisse, voilà. En fait, ils n'ont pas du tout tenu compte d'une chose qui est pourtant fondamentale, c'est la classe sociale des gens qu'ils interrogeaient. Alors ça peut paraître très bête, mais en réalité, on sait que plus vous naissez dans une classe sociale défavorisée, moins vous avez accès en fait à la culture au sens large et général, et plus vous avez un retard dans les bagages culturels. Alors c'est pas du tout stigmatisant quand on dit ça, c'est un constat. Et en fait, comme ils en tiennent pas compte dans l'étude à Lausanne, on sait pas vraiment qui ils ont interrogé. Parce que la réalité est que si, quand vous êtes enfant, vous lisez très peu, et ben automatiquement, quand vous allez devenir adulte, vous allez perdre du vocabulaire parce que vous n'avez pas pris l'habitude d'emmagasiner du vocabulaire. Mmh. Et qu'on sait maintenant de façon certaine que la lecture directe, c'est-à-dire, tu parlais d'Internet, le fait de lire Internet n'a pas la même valeur que la lecture lente, c'est-à-dire le fait de lire un livre et d'y revenir, de le poser, machin.
Pour le coup, j'ai une vraie statistique.
Ouais.
Sur une page, sur un site d'information, on ne lit que 30%. Ouais, vraiment. C'est on fait une diagonale obligatoirement et on lit 30%.
C'est ce qu'il disait. Alors que quand tu achètes un journal, tu le lis en plein, généralement, parce que tu l'as payé. non, c'est pas pour ça, mais c'est pas le même rapport. Donc voilà, c'est un exemple typique. Et en fait, l'étude de lausannoise, elle tient pas du tout compte de ça. Donc déjà, au départ, aller expliquer que c'est parce que la personne a dit j'ai fumé du cannabis qui a un lien automatiquement avec la perte de vocabulaire alors qu'on prend pas les autres critères en compte, c'est ridicule parce qu'en fait c'est nier qu'on n'a pas le même bagage culturel au départ et que forcément on n'évolue pas de la même façon avec le fil des années. Quelqu'un qui va s'abrutir 10 heures par jour devant la télé par rapport à quelqu'un qui va lire 3 livres par semaine n'a pas du tout le même niveau de vocabulaire automatiquement, quelle que soit sa consommation de cannabis, de drogue ou de quoi que ce soit, parce qu'il n'a pas la même vie, tout simplement. Et en fait, l'étude de Lausanne, je ne sais pas comment on dit Lausanne, voilà, enfin, l'étude de là-bas, de l'autre côté du lac Léman, eh ben, en fait, elle est hyper vide, parce qu'en réalité, elle n'a pas été validée elle a été publiée dans un journal soi-disant à relecture. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'article est publié quand il est relu par 10 scientifiques qui critiquent l'article. Mais sauf qu'en réalité, elle est passée un petit peu dans ce qu'on appelle les anecdotiques, c'est-à-dire les études qu'on publie en disant « Ouais, ok, mais c'est pas non plus super sérieux, mais on vous dit c'est une piste de travail. » Par rapport à l'étude américaine, il y a un grand écart qui est fait, parce que l'étude américaine, elle est faite très sérieusement. Elle prend en compte 40 critères. Donc d'abord le niveau de vie dans lequel vous vivez, votre accès à la culture, puis après ça va très largement, votre parcours de vie, si vous avez eu des difficultés ou pas, des parents qui ont divorcé, vous qui avez eu un problème de je sais pas, une tentative de suicide, quelque chose, alors je prends des choses très glauques, mais qui sont des choses impactantes dans la vie. Donc ça, ils le prennent et ça vient minorer ou majorer les résultats. Parce que forcément, si vous avez eu une vie parfaite où il ne s'est rien passé, où vous avez eu accès à la culture toute votre vie, vous n'avez forcément pas le même rapport avec la culture à l'arrivée. Enfin, c'est très logique, vous avez un bagage plus costaud. Et donc, en fait, dans l'étude américaine, ce qu'ils arrivent à démontrer, c'est que le cannabis, en réalité, n'a quasiment aucun impact sur le niveau culturel général. C'est-à-dire que quand vous fumez du cannabis, à part sur le moment, c'est-à-dire quand vous êtes sous effet de la drogue, vous n'avez pas d'impact direct à long terme. Si ce n'est une suspicion de perte de mémoire, qui pourrait, sur le temps, s'étaler. Mais dans l'étude, ils font très attention à dire une chose, c'est qu'ils ne savent pas si c'est lié au cannabis directement ou si c'est lié au fait qu'on fume du tabac en même temps que le cannabis.
En plus.
Parce qu'on sait que le fait de fumer du tabac a un effet sur la mémoire, parce qu'en fait, ça encrasse notre cerveau, enfin pour les différentes matières qui restent collées dans le cerveau. Et que du coup, ils ne savent pas vraiment si c'est lié uniquement au cannabis ou au fait qu'on mélange tabac et cannabis pour fumer. Donc ils sont très clairs dans l'étude, ils disent « Nous, on n'a rien vu de spécial. » Par contre, ce qui est intéressant, et là par contre, ils n'ont pas fait la une sur 20 minutes de ça, c'est que dans l'étude américaine, ils prouvent que, par contre, si vous buvez vraiment, c'est-à-dire si vous prenez une murge tous les week-ends, là par contre, il y a un vrai effet sur votre cerveau et à très court terme. C'est-à-dire qu'au bout de la... C'est ce qu'ils expliquent, hein, ils ont fait ça par rapport au spring break américain. Parce que vous savez qu'aux États-Unis, il y a le fameux lâcher prise des étudiants, le spring break, où les étudiants sont à peu près alcoolisés 24 heures sur 24 pendant environ 3-4 semaines, et enfin jusqu'à 3-4 semaines pour certains. Et en fait, ils se sont rendus compte que dans cette période-là, il y a un vrai impact. C'est-à-dire que l'alcool a un vrai impact sur le cerveau. Il y a une perte de neurones, il y a une perte concrète de relativité au temps. Il y a aussi des trous noirs, c'est-à-dire qu'on ne se rappelle plus de ce qu'on a fait. Hein, voilà. C'est aussi pour ça que c'est la période, malheureusement, où il y a le plus de viols commis aux États-Unis. Hein, c'est lié à ça. Dans le milieu étudiantin. Ouais. Et donc là, il y a une vraie étude. Et là, par contre, ils ont bien dit l'alcool est pire que le cannabis. C'est ce qu'ils expliquent dans leur étude en disant, voilà. Et puis après, ils prennent les autres drogues, la cocaïne. Alors là, ils s'expliquent que la cocaïne, c'est plutôt une drogue de riche, globalement, qui est tendance à arriver chez les pauvres. Parce que les prix baissent. Alors c'est très drôle parce qu'ils expliquent dans l'étude, ça m'a fait beaucoup rire, que les prix baissent parce que le prix du pétrole baisse et que le coût de transport coûte moins cher. Je dis ah bon, donc finalement le prix du pétrole a un impact sur tout, hein, même sur le prix de la cocaïne. Non mais je n'ai pas compris le lien, mais voilà, c'était écrit comme ça, je dis bon ok si tu veux. Non mais il doit y avoir un lien quelque part, mais je ne savais pas qu'on l'emmenait, oui mais pour moi c'est illégal, donc le transport ça va pas rentrer dans un coût.
Ouais, mais je veux dire, les dealers c'est des super gros capitalistes,
c'est vrai,
donc
c'est vrai.
Ils ont tout à fait la même logique que Bill Gates ou que n'importe quel autre mafieux capitaliste.
C'est fort probable. Mais ceci mis de côté, en fait, ils expliquaient que la cocaïne, en fait, qui est une drogue qui est vue comme moins impactante que le cannabis, parce qu'on dit oui, quand on est sous cocaïne, vous savez, il y a l'image très positive du mec qui est à fond, machin. Et en fait, non, elle est beaucoup plus impactante parce qu'elle a un effet sur le cerveau beaucoup plus fort. Qu'en plus, elle a des effets qui restent, c'est-à-dire que vous abîmez vos neurones réellement, concrètement. Et surtout, elle a des effets quand vous êtes sous cocaïne qui sont bien pires que quand vous êtes sous cannabis, avec ce qu'on appelle l'effet Superman. Oh, je vais soulever la voiture parce que je suis super fort, ou traverser le périph' parce que je vais super vite. Très mauvaise idée. voilà. Et donc voilà, c'était pour dire que c'était une démonstration par l'absurde du fait qu'on peut prendre une étude et qu'en France, on est hyper anti-cannabis. Hein, c'est pas une grande nouveauté. Et que 20 minutes, tout ça, sont quand même tenus par des grands industriels qui sont plutôt des gens qui soutiennent pas vraiment les progressistes, hein, globalement. Non. Et que, comme par hasard, dans ces journaux, on a pris une étude bidon, quasiment, au lieu de prendre une autre étude qui est sortie en parallèle, qui était, elle, beaucoup plus sérieuse, pour aller raconter à peu près n'importe quoi. Et qu'on a fait, bien sûr, la une dessus, parce que ça fait peur. Vous voyez, c'est comme ça, les gens, ils sont dans le métro, ils ouvrent leur truc, ils font oh « Et si mon fils ou ma fille fumait du cannabis, il ne mettrait plus d'accent circonflexe ?» Non mais, il faut tout relier aujourd'hui. Mais
c'est
hein.
vrai, c'est vrai.
Donc, c'est important.
Sachant que l'accent circonflexe, c'est quand même très, très, très important. Aujourd'hui, ah, on s'en sert, on le reconnaît à l'oral.
Tous les jours. Non mais voilà, mais c'est pour dire, ça fait partie de ces trucs qui m'inquiètent vraiment. C'est-à-dire que sous prétexte en fait de faire encore une fois de la diabolisation d'une drogue et bien sûr de pas parler de celle qui tue le plus en France, hein, qui est l'alcool, on va le rappeler. On fait mentir les chiffres, on les tord, on transforme une étude, tout ça pour et on dit oui, mais elle a été publiée dans tel truc sans. Moi, j'ai mis 2 minutes hein, pour trouver. C'est parce que il y a des trucs en ligne, hein, vous savez, The Lancet, tout ça. Vous pouvez trouver en ligne ce qui a été publié. C'est pas compliqué à trouver. Donc, je suis allé voir l'étude, j'ai regardé, j'ai cliqué sur leur lien, je suis allé voir où elle a été publiée. Et vous voyez en haut où c'est marqué en gros piste de travail, ce qui ne veut dire que c'est pas quelque chose qui est validé ou quelque chose qui est. C'est juste qu'ils se sont dit oui. Alors peut-être qu'effectivement, ça veut dire quelque chose, mais alors c'était pas. Alors que l'autre étude, elle est très très sérieuse. Elle a été publiée dans 3 journaux à relecture. Et là où elle a une importance à mes yeux, c'est qu'elle vient légitimer l'idée que le cannabis peut aussi être utilisé, c'est ce qu'elle met, à des fins thérapeutiques, notamment pour les personnes atteintes de maladies à douleur chronique, et qu'on ne fait rien pour l'utiliser, et c'est là que ça devient plus grave. Par contre, ça, je n'ai pas vu 20 minutes faire la une dessus pour dire « et si on aidait les gens qui sont vraiment malades ?» Voilà.
Mais enfin, je me permets vite fait. Allez, vite fait. Non, mais de toute façon, enfin, la France, effectivement, elle a un sale vieux problème, parce que enfin, on a quand même un ex-président, c'était Sarkozy, qui disait il n'y a pas de drogue douce et de drogue dure.
Ça, c'est débile.
Mais déjà, le mec, en fait, il raconte des absurdités. Alors, il en dit plein d'autres, hein. Mais comme sur toutes les autres, personne ne reprend ça pour dire à un moment donné, là, ce que tu dis, c'est complètement faux. C'est dénoncé par. Enfin, il y a des études, en tout cas, qui prouvent.
L'alcool est une drogue plus dure que le cannabis.
Ah, mais oui, il y a des études qui ont classé certaines substances, l'alcool, le tabac, les médocs, la coke, l'héro, le cannabis. Et, c'est-à-dire que le sang de la France, là, enfin, le pinard, c'est quand même une sacrée drogue dure. Donc, c'est tout ça, en fait. On est dans un mythe qu'on continue de cultiver.
Et surtout, on fait de la fausse prévention, de la prévention par la peur, et ça marche jamais.
Ah mais de toute façon, c'est-à-dire que si tu fonctionnes avec intelligence, tu pourrais te dire que les drogues, en fait, si tu les interdis, ça change pas grand-chose. Il vaudrait mieux se dire, voilà les substances, et on en parle clairement, en faisant une vraie sensibilisation, en arrêtant de prendre les gens pour des idiots, en arrêtant de raconter aux jeunes des conneries, parce que c'est pas par la bêtise, en fait, qu'on avance, quoi, et qu'on grandit, quoi.
Moi, vas-y.
Il y avait une histoire aussi sur, justement, des lobbies qui avaient... En gros, essayer vraiment de stopper au maximum le cannabis parce que dans les médicaments en France, on est plus sur la morphine, de conneries. Sur la morphine. Et qu'on essaie de les limiter au maximum en disant les effets positifs du cannabis parce qu'on veut vendre de la morphine. Ouais, donc les lobbyistes sont derrière pour dire non.
Mais il y a un grand. De toute façon, il y a de toute façon derrière des gros enjeux financiers. Mais en dehors de ça, moi, je voudrais juste renvoyer les gens qui ont peur, tout ça, machin et tout, à un petit pays qui est pas mal, qui est en Europe, qui s'appelle le Portugal, et qui depuis maintenant 15 ans a légalisé en fait le fait d'avoir des drogues sur soi. Au sens large, et en fait t'as pas légalisé la vente, hein, c'est pas la même chose, et a surtout mis en place des systèmes d'accompagnement qui sont assez géniaux et qui marchent plutôt bien, malgré la crise qu'ils ont subie, ils ont maintenu ces systèmes en place du mieux qu'ils ont pu, et c'est pas la joie, mais voilà, regardez ce qu'on peut faire quand on fait des choses intelligentes. Et alors je rappellerai juste comme ça que le nombre d'héroïnomanes au Portugal a été divisé par 3, et c'est pas par hasard. Voilà.
Et ben, musique.
Et oui, c'est bien la causerie, 22-23 le dimanche sur Radio Canu et radiocanu.org. Et comme vous avez pu l'entendre, c'était Lady Baby. Voilà, oui, Lady Baby, un groupe de kawaii core. Mais qu'est-ce donc que cette chose-là? Un mélange entre la musique kawaii japonaise et un surfeur, non pas, il n'était pas surfeur, catcheur, qui vient d'Australie, qui a émigré au Japon et qui a monté un groupe. Et comme lui chantait du hardcore, il a créé le kawaii core avec deux petites chanteuses très sympathiques. Voilà, et là, elle chantait Age Money. Voilà, et ça veut dire patron, augmente-moi parce que j'ai pas les moyens de vivre et t'es un vrai salaud parce que tu gardes tout et tu ne m'en donnes pas assez et moi j'ai que les miettes.
D'accord.
C'est ce qu'elle chantait vraiment.
Okay. Et c'est pour ça qu'il criait un petit peu, quoi.
Ouais,
c'est normal, il faut s'énerver.
Oui, c'est normal. Et okay. Je fais un petit coucou à Muteki Kanu qui est tous les samedis matins de 9h à 10h sur la culture japonaise. Voilà.
Une des plus vieilles émissions.
Sur la culture japonaise.
Sur la culture japonaise. S'il vous plaît, monsieur.
C'est sur Radio Kanu, quand même.
Et sur Radio Kanu, s'il te plaît. Et d'accord. Ben, je crois qu'après, c'est Jonathan
qui termine. Sur Radio Kanu, quand même.
Mais grave. Ah, mais grave. Et tout ça sans fond du ministère de la Culture.
Sans
comme ça, gratos.
Qu'avec du bénévolat et de la bonne volonté. C'est magnifique.
Enfin.
Alors ce soir, bah, du coup, un petit peu de culture. J'aimerais parler d'un dessinateur, scénariste de bande dessinée qui est un petit peu oublié. Pourtant, il est belge. Donc voilà, il s'appelle Petit Luc. Alors oui, il a un pseudonyme un tantinet ridicule, mais je l'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce mec? En fait, bon, déjà pour commencer, si je dis que c'est un Belge, c'est parce que j'ai mes sources. Il est né à Mons en 1956, donc c'est un vieux. Voilà, hein, faut le dire. Il a 60 ans cette année.
Merci pour tous les vieux qui nous écoutent.
Et les vieux sont sympas aussi. Hein. Enfin, ils sont juste vieux, quoi. C'est pas grave. C'est pas une maladie.
Non, clairement pas.
Enfin, ça dépend. Et en fait, ce dessinateur de bande dessinée, voilà, je me dis pour un type qui a 60 ans, qui fait de la bande dessinée depuis aussi longtemps, qui a fait autant de choses, je le trouve très peu connu finalement et très peu reconnu. Donc, c'est un type qui fait essentiellement des bandes dessinées sur les rats. Des petits personnages qu'il dessine qui sont des rats très caricaturaux avec un gros nez, des grands yeux globuleux, des petits bidous et bon, enfin qui ont des tronches à faire peur. C'est clairement
des
faces de rats. Et donc ça c'est notamment le titre d'une série de planches en fait dessinées qu'il a faites où finalement il met en livre, en recueil certains de ses dessins. Alors, il n'a pas fait que ça et puis il a travaillé avec des grosses boîtes de bandes dessinées alternatives et rebelles hein, comme les humanoïdes associés. Il a publié chez eux. Il a fait des bandes dessinées pour l'Écho des Savanes. Il a publié chez Fluide Glacial. Donc c'est quand même quelqu'un qui a été assez proche de tout ce qui est un petit peu alternatif dans la bande dessinée. Et il a dessiné avec des traits très grands comme Gottlieb également dans un recueil qui s'appelle Les Enfants du 21e siècle et qui a été revendu. Enfin, les fonds ont servi à aider l'association Personnage. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est une association qui aide les handicapés en général. Voilà. Et donc c'est quelqu'un qui a fait énormément de choses, que ce soit dans la bande dessinée ou dans la lutte en général. Et ses dessins sont assez représentatifs de cet engagement quotidien. Enfin, je pense que c'est quelqu'un, au vu de ses travaux, qui est profondément engagé, profondément en lutte contre notre société. C'est quelqu'un aussi que j'affectionne beaucoup parce qu'il a, on a une passion en commun, c'est la moto. Voilà.
Ah ouais, ça, c'est un
argument. Il a fait des bandes dessinées sur la moto et des voyages, notamment en Afrique et en Sibérie. Et il a un site qui s'appelle www.petitluc.fr. Non, il y avait 3 W, j'en ai dit 2, je suis désolée. Et sur lequel il y a un petit peu le suivi des voyages qu'il fait, des bandes dessinées également, qu'il a créées, etc.
Mais donc, à vous deux, ça vous fait un point commun avec Johnny Hallyday quand même, hein, ce qui est pas.
Alors, ouais. Alors, je sais pas, je m'étais jamais posé la question.
Et pourtant,
parce que si on part comme ça, avec Brigitte Bardot aussi. Hein.
Et ça craint.
Voilà.
Arrête.
Et voilà. Non, mais il y a beaucoup de choses. Si je dis ça, c'est pas pour rien. C'est parce que s'il a dessiné, c'est grâce à ses voyages en moto en partie. Parce qu'il a traversé l'Afrique un certain nombre de fois et c'est quelqu'un qui est très concerné et ça se voit dans beaucoup de ses de ses dessins par la situation géopolitique de l'Afrique, et notamment l'exploitation par les Occidentaux de ce continent.
Ouais.
Donc voilà, c'est un dessinateur de bande dessinée que j'affectionne particulièrement, vous l'aurez compris. Et notamment une série de bande dessinée qui est excellente, que je recommande à tout le monde, qui s'appelle Pacouche Blues, et qui est une critique absolument acerbe, cinglante, cynique de notre société à nous, mais où les humains sont représentés par des rats et leurs problématiques de survie, de reproduction, d'organisation sont très très bien mises en scène et de manière très très noire aussi. Si vous aimez bien les choses un petit peu glauques, un petit peu tristes, il faut pas hésiter à aller voir ce qu'il fait. Et donc là,
c'est une BD pour Jean-Yves, ça.
Par exemple, entre autres.
Oui, effectivement, je me reconnais un petit peu dans son style. Joyeux.
Avant de vous décrire deux ou trois dessins qu'il a fait là à l'antenne, ce que j'apprécie aussi chez ce type-là, c'est qu'il a sorti tout récemment une série de bandes dessinées qui s'appelle, enfin, un premier tome d'une série de bandes dessinées qui s'appelle Jeux sans frontières, et qui est la critique de l'aide humanitaire. Donc il y a des petites planches qu'on peut voir un petit peu partout sur internet, hein, maintenant on peut trouver, et notamment une planche où on voit une espèce de maison avec, où en gros il y a marqué que c'est le siège d'une association humanitaire, et puis on voit des Africains à côté qui disent oui bon alors qu'est-ce qu'ils font là, etc, machin, et puis il y en a un qui répond oh, faut les laisser faire, de toute manière ça peut être que bon pour nous, ils font ça depuis des tas d'années.
Ouais.
Donc voilà, le regard qu'il va avoir sur toutes ces pratiques, et moi je le trouve extrêmement juste, extrêmement critique et très très politique. Et donc là j'ai ramené dans le studio deux volumes de Face de Rat, qui est donc son recueil de planches.
Tu vas les montrer aux auditrices et aux auditeurs.
Alors, j'avais essayé de vous les décrire, mais il faut savoir que quand même sur la couverture du premier tome, c'est trois rats qui sont en train de se bidonner devant la peste de Canu, sachant que la
Camus.
De Camus, oui, pas de Canu. Et qui sont en train de se bidonner devant ce roman-là, alors que bon, il faut savoir que c'est quand même les rats qui transportaient principalement la peste via les puces. Et c'est énorme, c'est plein de dessins très glauques. Très très glauque. Par exemple, là, je tombe sur des rats qui marchent sur les rails d'un chemin de fer et qui ont l'air tout contents, etc. Finalement, ça représente un petit peu des gens qui partent, qui immigrent, et des rats qui immigrent d'un point à un autre avec leur petit baluchon, comme ça, ils sont contents, ils vont vers un avenir meilleur. Et derrière, il y a le train qui les rattrape et qui les écrase tous. Et alors, ceux de devant n'entendent pas le train, sont très contents, et ceux de derrière, disparaissent. Des giclées de sang. Voilà. Donc c'est assez gore, hein. Faut quand même aimer.
Mais avec un style très léger.
Mais voilà, oui, avec oui, un oui, style oui, assez oui. innocent.
Ouais, ça reste. Voilà. C'est moins gore que ce qui est décrit là, quelque part.
Oui. C'est ça, c'est toujours avec ouais. beaucoup de légèreté. Et il y en a un que j'arrive pas à retrouver là, mais qui m'a. Ah si, il est là. Qui m'a toujours plus depuis que je le connais, c'est un rat qui essaye de se pendre absolument, et donc voilà, il est au bout de sa vie, il essaye, donc on le voit dans un premier temps avec sa corde, etc. Et puis à la fin de la planche, on le voit, il est tout emberlificoté dans sa corde, il a pas réussi à se pendre, enfin il est plus blasé qu'à la base déjà, donc voilà, il y a aussi cette dénonciation du non-sens de certaines choses de la vie, et j'aime beaucoup parce que je suis quelqu'un qui de temps en temps me demande mais c'est complètement absurde ce qui se passe autour de nous, enfin ça n'a pas de sens, on va pas du tout dans le bon sens, hein, sans forcément aller vers du anarchisme ou je ne sais quoi.
Il y a aussi des planches juste drôles. Faut le dire,
et voilà, voilà.
Il y a la tapette à humains que j'ai trouvé.
C'est ça. Oui, avec les billets pour attirer
l'humain, et schlach, la tapette à humains.
Voilà, il y a des choses vraiment juste. Ou alors tout le délire avec les schtroumpfs aussi. Ouais. Les rats généralement bouffent du schtroumpf en quantité monstrueuse. Donc c'est. Voilà.
Ils ont un truc contre les schtroumpfs en tout cas.
Ah, petit Luc, je crois qu'il n'aime pas les schtroumpfs.
Ah, moi je pensais que c'était les rats, hein, moi.
Non, mais comme, alors Saul, mais comme il est belge, je me demande s'il a pas la saturation. Vous savez, en Belgique, il y a plein d'auteurs de BD qui disent j'en ai marre, Tintin et des Schtroumpfs.
Il faudrait même voir au niveau des dates et des proximité entre les deux, peut-être qu'il y a eu quelque chose, tu vois.
Possible, ouais.
Parce qu'il y a plein d'auteurs de BD qui disent mais il y en a marre de Tintin et des Schtroumpfs, quoi, parce que c'est les deux grosses BD belges. Moi, en fait, voilà.
Enfin, moi je dis aussi il y en a marre de Tintin, personnellement. Les Schtroumpfs, allons-y, mais Tintin, non.
Moi, enfin, les Schtroumpfs, j'en peux plus. Perso, je.
Mangeons les Schtroumpfs.
Oui. Bah, moi, j'aime beaucoup manger les Schtroumpfs.
Oui.
Voilà, hein.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà.
Ah, ok.
Non, mais les bonbons.
Ok, ouais, ouais, non, mais
tu vois, je les décapite, ouais, ouais. Je commence comme ça par la tête. Non, mais voilà. D'ailleurs, c'est les seuls bonbons, enfin, ça me fait plaisir de les manger.
Bref. Eh ben, ça fait plaisir aux auditeurs et auditrices de savoir.
Donc, si vous n'aimez pas les Schtroumpfs, allez lire les bandes dessinées de Petit Luc, allez voir ce qu'il a fait, donc Jeux sans frontières, allez voir les Pacouches Blues, lisez-les, c'est excellent.
Tu peux peut-être rappeler le site où on peut suivre un peu ses actus ?
Ben, le site où il y a toute l'actualité Petit Luc, c'est www.petitluc.fr, que j'ai mis sur ma chronique là avec deux petits cœurs, un de chaque côté, parce que c'est vraiment trop 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 bien. Bon, je signale au passage que peut-être qu'il faudrait lui proposer de refaire son site, parce qu'il n'est pas très pratique.
Et pour revenir sur ma chronique à moi, tapez directement dans le moteur de recherche www.petitluc.fr.
Voilà, et puis ensuite vous le mettez dans vos favoris, ben oui, parce que c'est génial. Voilà. Moi d'ailleurs j'ai mis dans mes favoris.
Et ce qu'on fera, c'est que ben, on le rajoutera sur le blog de la causerie, comme ça.
Voilà. Comme ça,
lui est hébergé sur un seul serveur et donc.
Exactement. Et puis comme vous avez la causerie en favori, vous pourrez le retrouver très rapidement.
Exactement.
Évidemment.
Voilà.
Bon ben.
Musique.
Allez.
Regarde-le, mon monde, son carnaval d'automates. Ça bouchonne dans la grande foire aux égaux. Regarde-le, mon monde, l'oppression grise,
écarlate,
ronge l'âme verte des badauds. Elles étaient sombres. Tes nuits sans attache, ton cœur sans encre et l'orgueil qui t'arrache. Regarde-le, mon monde, il a le virus des affaires. Vois les couches de sel qu'il déverse sur nos cicatrices. Regarde-le, mon monde. Dis-moi, es-tu toujours en colère? Dans ta dernière révolte, tu nous quittais le jour du Christ. Elles étaient sombres, tes nuits sans attache, ton cœur sans encre et l'orgueil qui t'arrache. Regarde-le, mon monde, qui décolore les nuages, presse les arbres nus dans des souterrains. Regarde-le, ce monde, et l'orgie, tout ce qu'on cache. Tu décollais sur l'opulence vomie des magasins. Elles étaient sombres. Tes nuits sans attache, ton cœur sans encre et l'orgueil qui t'arrache. Regarde-le, mon monde. Regarde-le et dis-moi, est-ce qu'on est mieux là-haut? Thank you.
Et c'était mon monde de Java pour te rappeler, auditeur, que la vie, c'est pas toujours rose, putain.
C'était dans quelle émission?
Ah oui, c'est dans Radio Canu, toujours. Hein. On n'a toujours pas changé de station.
Ok. Et ben, toujours dans la cause, effectivement. Et ben, vu qu'il est 23h et qu'on est quand même vachement...
Hein? Brève?
Ouais, c'est ça, brève. Donc je vais faire des brèves. Brève. Ok. Ouais, c'est super. Pardon. Alors, rendez-vous lundi, bah, c'est demain à 11h à Vénissieux, 30 rue Louis Jouvet. C'est pour une manif de soutien aux salariés de Carbone Savoie, en fait, qui sont en grève illimitée parce que... parce qu'il y a un rachat de boîtes, je crois, et que tout ça, enfin, et qu'ils ont fait une grève illimitée. Là, c'est une manif de soutien, en fait. C'est vraiment essayer d'aller les soutenir. Et...
c'est une boîte qui rachète leur boîte pour récupérer le brevet et qui a l'intention de les virer.
C'est ça. C'est et en fait, ils réclament 10 000 boules pour, ben, si tu veux nous virer, tu nous donnes de la thune.
Quoi. Au moins.
Au moins, ça. Ben ouais.
Et parce que là, ils veulent les virer sans rien.
Ah bah oui, bah attends.
Tranquille, quoi. Ça vient.
Bah attends, faut pas déconner. Alors, ensuite, eh ben on a presque un rendez-vous par jour, je crois bien. Mardi, il y a une bouffe-concert qui est organisée à la cantine du mardi soir. On en avait déjà parlé ici, oui. C'était à l'Hôtel California, qui est un lieu squat. C'est une soirée en soutien à l'école autonome du squat. Et c'est donc mardi le 9, de 18h à 23h. C'est au 69. Pardon. Avenue Pinel. Avenue, s'il te plaît. Mermoz Pinel, voilà, métro Mermoz Pinel ou bus T2, ou bus 22 ou le T2, jusqu'à Bachu, mairie du 8e. Ensuite, on va, bah, c'est pour jeudi 11, donc de 18h30 à 20h, à la bibliothèque du 7e. Il y a des rencontres. Enfin, c'est une rencontre dont le titre c'est Migration, quelle réalité, quelle solidarité. Et en fait, il y aura des témoignages en fait de migrants, il y aura des témoignages d'assos qui sont sur le terrain, parce que bah oui, c'est-à-dire c'est mettre un visage en fait, parce qu'on entend parler tout le temps de plein de gens et en fait c'est aussi des individus avec des parcours, etc. Donc c'est revenir aussi sur ça. Donc je vous le redis, c'est jeudi le 11 à la bibliothèque du 7e.
Elle est où? Tu as l'adresse ou pas?
Non, j'ai pas l'adresse.
Bah, les gens chercheront.
Voilà. C'est ça. Ensuite, alors c'est quand ça? Je suis désolé, j'ai pas mis le jour. Oh, je suis désolé. En tout cas, c'est projections et rencontres sur les mémoires de la guerre d'Algérie. C'est de 19h à 23h. J'ai l'adresse, je peux vous la donner. C'est à Villeurbanne, au 39 Georges Courteline. Par contre, je sais plus si c'est jeudi ou vendredi.
Ouais, est-ce que c'est sur Rebellion?
C'est ouais, c'est sur Rebellion. Ouais. Et c'est avec l'asso Grand Ensemble. Donc regardez peut-être sur internet, vous y trouverez toutes les infos. Voilà, et ben c'est la fin. Ça vous va? Vous avez un truc à rajouter, tout ça? Non, on rappelle vite fait quand même le mail. C'est lacauseriecanu@gmail.com.
Oui.
Le blog.
blogs.radiocanu.org/lacauserie.
Ok. Ouais. C'est bon.
Et aussi, moi j'ai envie d'inviter les auditrices et auditeurs à venir voir le nouveau Radio Canu, parce qu'on a une super belle fresque à l'entrée, et que ça vaut le coup de voir que des fois, avec un coup de pinceau et 2-3 coups de bombe, bah, on redonne plus que 2-3 coups de bombe
quand même,
et beaucoup de boulot en fait, on redonne vie à un lieu, et puis que ça donne une petite ambiance différente, et c'est sympa.
Voilà. Ouais.
Donc n'hésitez pas, 24 rue Sergent Blandan, dans le premier.
C'est ça. Et puis ben, avant de vous, enfin on va vous donner rendez-vous la semaine prochaine, toujours de 22 à 23 sur Radio Canu avec la causerie. Et puis on se quitte en écoutant Aura Sandy avec le titre Skylarking.
Et ça permet de faire des coucous quand même à quelques émissions de Canu.
Ouais, bah ouais. Alors vu que c'est dimanche, c'est jour béni des reggae man hein, sur Radio Canu et des reggae woman. Donc on va faire bah ouais, un petit bisou, un big up, comme ça se dit plus dans ce milieu-là, à l'équipe
Rocker Station,
à Rocker Station, à Stand Farm, ouais, à Dancehall Social Club, à
Dub Action,
voilà.
C'est pas tous le dimanche, hein, Dancehall.
Non, c'est aussi sur la semaine.
Dancehall c'est lundi et la Dub Action c'est le mardi.
C'est ça, parce que là le titre qu'on va écouter c'est vraiment un vieux classique. Et puis ben, on vous souhaite une bonne nuit.
Des bisous. Bah,
des bisous.
Ouais, des soir. Bisous on fait. À bientôt.
Et merci Clara pour la technique.
De rien, ciao.
Allez. Allez, on écoute.
Oui, on écoute.
Yes.
Allez.
comme tu as pu le constater, c'est un peu planté. Donc, minutes, secondes, heures, enfin, voilà, tu vois, tu es toujours sur la causerie et ça démarre pas. Pourquoi ça démarre pas?
Il est parti à côté.
Ah bah voilà. Ça fait un gros scratch alors du coup. Ah, on y était presque. Ça y est. Allez, salut, bonne semaine à toutes et à tous.
Tes instincts, et quand tu dis que tu crois en moi,